le signe de la clé et de la croix. À mesure que je parcourais les rues de la ville, il me revenait à l'esprit une des histoires que m'avait conté jadis M. d'Amercœur. Sans me nommer le lieu où se passa l'aventure, il me le décrivit soigneusement, si bien qu'aujourd'hui, il me semblait le reconnaître en même temps que je voyais se dresser devant moi cette vieille cité, noble et monacale, croulant dans ses remparts démantelés, le long de son fleuve jaunâtre, en face des montagnes pelées de l'horizon, avec ses rues d'ombre de soleil, ses antiques hôtels clos, ses églises, ses nombreux couvents aux cloches alternatives. Je la retrouvais telle qu'il me l'avait dépeinte, cette ville, vieille amas de pierres sombres ou lumineuses, engourdie de chaleur et de solitude, en une classification poudreuse, et gardant par ses monuments encore debout le squelette de sa grandeur passée. Elle s'était décharnée peu à peu pendant ses entours, recroquevillée en son enceinte qu'elle ne remplissait plus. Au centre, elle tassait ses maisons en un bloc compact, vaste encore. D'ailleurs, elle clairsemait ses masures et partout elle sommeillait en torpeur, avec parfois le sursaut d'un bourdon ou le carillon d'une sonnerie. Les rues, dallées de pierres plates ou durcies de cailloutis, s'entrecoupaient bizarrement pour aboutir à des places carrées. Des marches se tenaient là. Les troupeaux de la contrée se réunissaient pour en repartir dispersés au gré de l'achat. L'enchère et l'office étaient tour à tour la seule occupation des habitants. La ville restait rustique et dévote. Le pas vif des moutons piétinait sur le passage où retentissait le sandal des moines. Pasteurs et ouailles se croisaient. La vie Roland des toisons se confondait avec l'odeur des bures. Le vent sentait l'encens et le suin. Tondes et tonsures, pâtres et prêtres. J'étais arrivé à l'angle de deux voies. Une fontaine y coulait dans un bassin usé. Je me rappelais cette fontaine. M. d'Amercœur vantait la fraîcheur de son eau. La rue de droite devait mener à l'enclos des Pères Noirs. Je la suivis. Sa tortuosité s'insinuait au cœur même de la ville. Quelques pauvres boutiques ouvraient leurs éventaires. Des chapelets y pendaient auprès de fouets tressés. La rue s'élargit tout à coup. La haute façade d'un vieil hôtel l'abordait. J'en avais déjà vu de pareils, ça et là, mais celui-ci se faisait remarquer par la particularité de son aspect. Il s'élevait sur un soubassement de maçonnerie fruste. Les fenêtres, loin du sol, grillaient. On avait dû utiliser les fondations d'une demeure primitive sur lesquelles l'édifice actuel surajouté dressait son architecture sévère. Au coin de l'hôtel, la rue tournait brusquement et descendait en pente courbe, taillée en marche. La descente contournait l'arrière de l'édifice et on découvrait des assises qui étaient celles d'un ancien château fort dont la croupe de pierre lisse s'étayait en bas sur le roc vif. Je reconnus l'hôtel d'Heurteleur. La rue cessait, des arbres apparurent. Une avenue la continuait, bordée de peupliers. De vieux sarcophages de pierre vide s'alignaient dans l'herbe, haute où les pas avaient marqué un étroit sentier. On longeait à droite un mur dans lequel s'ouvrait une porte basse. Je tressaillis en la voyant. Elle donnait dans le jardin méridional des pères dont le couvent s'annonçait au bout de l'allée par un portail. Avant de continuer, je m'approchai de la petite porte murale. Elle était massive et cloutée de fer. L'entrée de la serrure se façonnait en forme de cœur. Arrivé au porche, je sonnai. Le portier m'introduisit dans le monastère. D'immenses corridors menaient à de vastes salles. Nous montâmes les escaliers. Le frère gardien relevait sa robe. Nous ne rencontrions personne. La chapelle où je n'entrais pas bourdonnait d'une psalmodie de psaumes. On me montra plusieurs cloîtres, l'un de charmants, carrés, pleins de fleurs, habités de colombes. Elles se posaient sur les frises comme un bas-relief naturel et engourdi. De là, on voyait le clocher de l'église. L'horloge y sonnait à peine le temps. Un grand tournesol jaune se regardait dans l'eau profonde d'un puits et s'y mirait sa face d'ostensoir. Rien n'avait changé depuis le jour où M. Damercœur visita la vieille ville. Le même aspect confirmait la durée des mêmes habitudes. Le claquement des fouets se mêlait encore au tintement des chapelets. Les cloches des couvents échangeaient leur sonnerie comme au temps où M. Damercœur, le bâton à la main, les pieds nus dans les sandales, le froc aux épaules, vint heurter à la porte du monastère. Il demanda le prieur qui se trouvait alors Don Ricard. On me montra sa tombe mitrée parmi les sépultures anonymes qui l'entourent. Il avait conservé de puissantes liaisons avec le monde d'où il s'était retiré, y gardant une main pour les aumônes et la prêtant au besoin en échange aux délicates entremises qu'on sollicitait de sa prudence et de sa sagesse. M. Damercœur lui expliqua son costume, les motifs de sa venue et le détail de sa mission. Après 20 ans de haut service dans les armées, un gentilhomme du pays, M. Dörteleur, revint s'y fixer. Il y épousa peu après Mademoiselle de Castille. C'était une fille pauvre, de bonne lignée, d'une grande beauté. Les époux vécurent à l'hôtel d'Hertefleur. Les nobles de la ville y fréquentaient, et le plus assidu s'y monta M. d'Aiguilleul. Il s'apparentait à M. de Hertefleur, qu'il avait eu jeune sous ses ordres et l'aimait beaucoup. La vie se menait fort simple à l'hôtel d'Hertefleur. Nul train, peu de domestiques, mais l'existence s'y rehaussait de la proportion des salles, de la largeur des escaliers, de tout le faste anachronique de la vieille demeure. Fût-ce l'ennui de ce séjour dans cette maigre ville déchue après l'agitation d'un métier bruyant, quelques reprises soudaines de l'esprit d'aventure, mais au bout de 6 années, M. Hertefleur et M. d'Aiguilleul disparurent un beau jour sans qu'on puisse savoir où. Le temps passa, les recherches n'aboutirent pas. On présagea quelques mystères. Madame d'Hertefleur pleura. On tint de singuliers propos dont le bruit de proche en proche parvint jusqu'à la cour où on se souvenait encore de ces messieurs. On parlait un jour de cette double disparition devant M. Damercœur, qui se fit fort d'éclaircir l'énigme. On lui donna plein pouvoir d'agir et il partit. Son premier soin fut de revêtir la robe monacale, sûr avec cet habit de pénétrer partout, tant par l'entrebâillement des portes que par les fissures des consciences. Et Don Ricard lui facilita les moyens de son enquête. Ses premières recherches restèrent sans résultat. Favorisées par l'incognito de son costume et l'apparence de son état, elles furent patientes et diverses. Il flaira les entours de l'hôtel d'Hertefleur, en scruta les habitudes et les êtres, en palpa la vie. Il ausculta les rumeurs encore vivaces de l'événement. Tout fut vain. Il voulut voir Madame d'Hertefleur. On lui répondit qu'elle était malade. Il ne put vaincre la clôture où elle s'enfermait. Chaque jour, il passait devant l'hôtel. Il suivait la rue qui monte le long du soubassement et s'arrêtait devant la façade. Bien souvent, il alla jusqu'à cette fontaine dont il me parlait. L'eau fraîche calmait sa bouche. Au retour et en redescendant les marches, il examinait l'énorme bâtisse de pierre et de roc. Il aurait voulu y appliquer l'oreille et y écouter le mystère. Il lui semblait que les flancs de la vieille demeure contenaient le fantôme du secret qu'il était venu d'évoquer, du silence et qui retournait à l'oubli. Enfin, découragé, il se sentait sur le point de renoncer. Il aurait pris congé de Don Ricard sans les instances du vieillard qui le retenait auprès de lui. Le vieux moine se délassait dans la compagnie de ses ouailles, si dissemblables du troupeau qui se croise de bon bois conduisant dans les sentiers monotones de la règle. Un jour, vers 5 heures de l'après-midi, M. de Mercœur, sorti par le vieux porche, marchait parmi les hautes herbes de l'avenue. L'instant était mélancolique et grandiose. Les arbres barraient de leurs ombres l'allée funéraire. Des lézards couraient sur la pierre tiède des tombeaux antiques, se glissaient par leurs fissures. D'une main, M. Damercoeur retroussait sa longue robe de moine. De l'autre, il tenait la clé pour ouvrir la serrure en cœur du jardin méridional où il aimait à se promener. Il le voulait revoir encore une fois avant de partir encore, entendre la semelle de ses sandales crier sur le gravier des allées, sentir son froc frôler les bordures de buis. La symétrie des parterres lui plaisait. Leurs carrés contenaient des plantes délicates et des fleurs curieuses. Des petits bassins en nourrissaient d'aquatiques. Elles plongeaient dans l'eau leurs racines et s'épanouissaient en se mirant. Aux intersections des allées, des vases de faïence peints d'emblèmes et de devises pharmaceutiques, avec des serpents aux anses, contenaient des variétés précieuses. Par-dessus le mur, on apercevait les cimes des peupliers, et dans les potages d'à côté, que séparaient de hauts treillages verts, on entendait le peigne d'un râteau, le heurt d'une bêche contre un arrosoir, le petit bruit d'un sécateur coupant des pousses. Ici, tout était silence. Une fleur se courbait, flexible au poids d'un insecte. Des hirondelles volaient. Des libellules rasaient l'eau verdâtre des plantes grasses, les serpentines se nouaient et se renouaient en caducées. M. Damercoeur se dirigeait vers la porte du singulier petit enclos quand, du bord de l'avenue, il vit venir à lui une femme vêtue de noir. Elle allait lentement comme à tâtons. Il perçut intérieurement, par une sorte de révélation subite, que cette haute forme sombre ne pouvait être que Madame d'Hortefleur. Il ralentit le pas de façon à la croiser au moment où il s'arrêterait à la porte basse. Arrivé là, il mit la clé dans la serrure. Le bruit fit tressaillir la promeneuse solitaire. Elle hésitait. Il se courba comme cherchant à ouvrir. Elle voulut profiter de l'instant et passer outre, mais elle se trouva face à face avec lui, brusquement retournée à demi. Il vit le visage pâle et beau, creusé d'insomnie et de douleur, les yeux en émoi, la bouche entr'ouverte, la main à la poitrine haletante. Alors il entra vite, laissant sur la porte refermée, au cœur de fer de la serrure, la clé. Le lendemain, il songeait dans le petit cloître quand on avertit qu'une femme voilée demandait à lui parler. Elle vint. Il reconnut Madame d'Hortefleur, la fit asseoir sur un banc de pierre. Les colombes roucoulaient doucement sur les chapiteaux du cloître désert. Leur roucoulement se mêlait à sa suffocation qui soulevait le sein de la pénitente. Il couvrit son agenouillement d'un large signe de croix, et la tête basse, les mains dans ses marches, il écouta la dolente confession. C'était une horrible et tragique histoire. Mais pourquoi la lui raconter? Mais son secret lui avait semblé mis à nu. Ce moine, ouvrant d'une clé cette serrure en cœur, lui parut forcer l'accès de sa conscience. Elle voyait dans cette rencontre le propos du sort et dans ce geste une allusion mystérieuse et aussi l'emblème prédestiné à la délivrance de son âme prisonnière dans l'honneur de son silence. Son mariage avec M. d'Horteleur fut sans amour. Elle estima, en le craignant, son noble caractère dont la dureté intimida sa confiance et découragea sa tendresse. Des années passèrent. Un hiver, Desglieux apparut dans sa vie et fréquenta son intimité. Il était beau, encore jeune. Elle se donna à lui. Ce furent des jours de joie et de terreur vécus dans leur transe, d'une surprise et dans l'angoisse du remords. Monsieur d'Horteleur ne s'aperçut de rien. Il était, comme à l'ordinaire, souvent absent. Seulement il vieillit et une large ride s'ajouta à celle que crisait déjà son front. Un soir, Madame d'Horteleur s'était retirée dans sa chambre vers minuit. Elle se sentait triste. Monsieur d'Aiglieul n'avait point paru de la journée et il ne manquait guère de venir presque chaque jour. Monsieur d'Horteleur était parti à cheval dès le matin, bien qu'il plût. Au moment où elle peignait ses chevaux devant une glace, elle vit que la porte s'ouvrait et son mari entra. Il était botté et dans ses bottes ne conservait aucune trace de boue. Son habit semblait poussiéreux. Une longue toile d'araignée pendait à son coude. Il tenait à la main une clé. Sans rien dire, il alla droit au mur de la chambre où un clou fixait un Christ d'ivoire, le saisit et le brisa sur le pavé, et à la place, il suspendit la lourde clé mourouillée. Sa figure était violente et pâle. Madame d'Hortefleur resta un moment sans comprendre, immobile, puis tout à coup, portant ses mains à son cœur, elle poussa un cri et tomba à la renverse. Quand elle reprit ses sens, l'affreuse aventure lui apparut. Son mari avait dû attirer M. d'Aiglieul dans quelque guet-apens. La vieille demeure à base de forteresse contenait dans ses flancs des réduits invisibles et des cachettes éternelles. Un cri, le sien, vibrait encore à ses oreilles, mais il lui semblait venir d'en bas, sourdre de la pierre entassée, perçant les voûtes superposées, arrivant jusqu'à elle de ses lèvres dont la séparait à jamais l'épaisseur des murailles. Elle voulut sortir, la porte résista, des cadenas fermaient la fenêtre, les domestiques habitaient loin. Le lendemain, M. d'Horteleur vint lui apporter sa nourriture. Chaque jour, il revenait. La toile d'araignée pendait toujours à la manche de son habit poussiéreux. Sa botte craquait sur le pavé. La grosse ride de son front se creusait dans une pâleur de torture et d'insomnie. Chaque fois, il ressortait silencieusement, et aux larmes et aux supplications, il ne répondait que par un geste bref, montrant la clé pendue au mur. Ce furent des jours tragiques où la malheureuse vécut les yeux fixés sur l'horrible ex-voto, qui, grandissant, devenait énorme. La rouille lui en paraissait rouge de sang. Elle la sentait s'égoutter dans la solitude de son désespoir. La maison semblait morte. Vers le soir, on entendait un pas. M. d'Horteleur entrait une fois encore, portant une lampe et une corbeille. Ses cheveux avaient blanchi. Il ne regardait pas la fortunée qui se traînait à ses pieds, mais il ne cessait de considérer avidement la redoutable clé. Alors, Madame Dorteleur comprit la convoitise dont souffrait son mari, l'âcre désir qui le rongeait, celui de voir mort son rival, de constater sa vengeance et de palper la pourriture que devenait une chair aimée, et de reprendre enfin cette clé qu'il avait clouée au mur en substituant au signe de pardon dont il avait brisé l'image d'ivoire, le signe de rancune éternelle dont il avait appendu là l'invisible emblème de bronze. Mais hélas, la vengeance n'assouvit pas. Elle reste toujours un désir. Elle en a les violences et les tourments, et elle se ressasse en ses retours jusqu'au bout de la vie et jusqu'au fond de la mémoire. Monsieur Dorteleur s'était senti deviné en sa torture solitaire, et il en souffrait davantage. Le marbre noir de son orgueil se sillonnait de veines de sang. Une nuit que Madame Dorteleur sommeillait, couchée sur son lit, elle entendit sa porte s'ouvrir doucement et elle vit son mari apparaître au seuil. Il tenait à la main une lampe baissée et marchait léger comme une ombre, sans que le pavé grinçât, comme si le sombre somnambulisme de son idée fixe faisait de lui un fantôme impondérable. Il traversa la chambre, se haussa, prit la clé et ressortit. Il y eut un grand silence. Une mouche, réveillée par la lumière, bourdonna un instant et se tut. La serrure ne se referma pas. Un sursaut indicible mit debout Madame Dorteleur. Pieds nus, elle se glissa dans le corridor. Son mari descendait l'escalier, elle le suivit. Au rez-de-chaussée, il continua à descendre. Les marches s'enfonçaient dans l'ombre. Elle entendait au fond des corridors souterrains le pas qui la précédait. On était dans les antiques substructions du vieil hôtel. Les murs suintaient. On passait sous des voûtes arquées. Un dernier escalier creusa sa vrille dans le roc. Au fond vacillait encore, sur la paroi luisante, la lueur de la petite lampe disparue. Penchée, Madame Dorteleur écouta. Un grincement monta jusqu'à elle et la lumière s'éteignit. Au bas s'ouvrait une chambre circulaire. Un pan de mur entr'ouvert découvrait un étroit boyau. Elle avança encore, et au bout, en tâtant, elle reconnut une porte imperceptiblement entrebâillée. Elle ouvrit. Monsieur Dorteleur était assis à terre auprès de sa petite lampe, dans une sorte de trou carré, voûté et dallé. Il regardait et restait immobile, les yeux grands ouverts. Il la regardait et ne la voyait pas. Une odeur nauséabonde sortait du caveau. Sur la pierre, hors de l'ombre, s'étalait, verdie déjà, une main décharnée. Madame Dorteleur ne crut à point. Allait-elle donc réveiller le misérable somnambule que son furieux sommeil avait conduit jusqu'au tragique caveau? Allait-elle infliger à son orgueil le supplice de cette surprise? Non, la vengeance de l'outrage était juste. Pourquoi la lui montrer avilie? Elle se sentit pitié pour les yeux égarés qui la regardaient sans la voir, pour le visage de torture, pour les cheveux blanchis de tant de souffrances silencieuses. Et elle comprit que pour sauvegarder cette douleur, il fallait lui garder le secret de sa déchéance nocturne et le laisser assouvir en paix son terrible désir dans le silence éternel de la tombe, sans qu'il sût jamais quelle main veille visible l'y avait muré en face de son sacrilège. Monsieur Dörteler la regardait toujours. Très calme, elle s'agenouilla, baisa la paume verdâtre qui étalait sur la pierre ses doigts décharnés, et du dehors, elle referma la porte et se retira à tâtons, fit jouer le ressort du mur qui assurait l'entrée du passage. Elle remonta la spirale de l'escalier, les marches souterraines, les degrés de l'étage, et au clou rouillé de sa chambre, elle suspendit la clé tragique qui s'y balança un instant, puis resta immobile, y marquée une heure éternelle. Les colombes passaient et repassaient en volant sous les arceaux du petit cloître. L'heure sonna en même temps au clocher de la ville. La pauvre femme sanglotait, et elle tendit à M. Damercœur la grosse clé qu'elle laissa tomber à ses pieds. Il la ramassa, elle était lourde. Sa rouille paraissait rougeâtre. Madame Dörteler, agenouillée, le supplia du geste, éperdue, les mains convulsives en le voyant s'éloigner d'elle. Il descendit vers le petit jardin en contrebas qui embaumait le centre du cloître. Des fleurs y poussaient entre les brûlures égaux des parterres. De grandes roses enguirlandaient le puits à margelles de pierre. Elles griffèrent de leurs épines la robe du moine qui s'y pencha. L'eau rejaillit. Un haut tournesol d'or inclinait son ostensoir de miel. Une colombe recoula faiblement, et M. Damercœur, revenu auprès de la pénitente toujours prosternée, murmura à son oreille les paroles d'une absolution qui, si elle ne liait à rien dans le ciel, donnait au moins sur la terre à une âme douloureuse la paix.